Les invités d'André Casabianca sur RCI.
Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là. Comme un arbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Éléphants roses, ces araignées sur le plastron de mon smoking, ces chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là, comme un arbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
Aujourd'hui, je suis à côté d'un écrivain. Ce personnage, parce qu'un écrivain, c'est toujours un personnage quand même. Bon, je vais vous donner les titres de ses livres. Mauvaise nouvelle 2012, chute 2016, Sainte-Julie de Corse 2019, et puis son dernier roman, Épuration, voilà. Eh bien, moi j'ai l'impression qu'il s'appelle Gilles Zerline, j'en suis presque sûr.
C'est
voilà.
Ça,
donc,
c'est ça, oui.
Bon, on se connaît depuis très longtemps, on se voit souvent, mais là, disons qu'il y avait toujours, à chaque fois que l'on se rencontrait, une préoccupation, c'est-à-dire quand même, ou un souhait plutôt. J'aimerais bien quand même qu'un de mes livres soit un jour publié dans une maison, on va dire, parisienne. Et c'est ce qui vous est arrivé avec Épuration. Alors comment ça s'est passé? Parce que vous arrivez de Paris. Alors, Gilles Zerline.
Ben, ça s'est passé d'abord une première anecdote, puisqu'effectivement, donc, je suis désormais, je fais partie de la maison de Maurice Nadeau. Et l'anecdote que j'ai rarement racontée d'ailleurs, c'est que c'est le dernier envoi que j'ai fait du manuscrit d'Épuration. Je l'avais pratiquement oublié. Et donc le dernier envoi a été le bon, puisque M. Gilles Nadeau, le fils de Maurice Nadeau, m'a appelé et a accepté ça. Et effectivement, j'arrive de Paris parce que j'ai fait la promotion du livre la semaine dernière dans cette ville. Et c'est un autre monde qui s'ouvre, c'est-à-dire c'est non pas que j'ai une admiration sans bornes pour cette ville, loin de là, mais là où c'est une ville impressionnante, c'est la densité de librairies et de maisons d'édition qu'il y a au mètre carré dans le quartier latin, puisque pour moi Paris c'est le quartier latin, Paris, pas que je m'en moque mais un petit peu, et c'est très impressionnant quand même, on est un peu dans la capitale de la culture, et ça c'est indiscutable.
Alors, qui dit capitale de la culture dit rencontre. Oui. Vous avez donc rencontré, j'imagine, des lecteurs, des journalistes. Alors ?
Ben, j'ai rencontré évidemment des lecteurs autour de une signature, une discussion sur une place publique, et au hasard de mes promenades dans les librairies où il y avait mon livre. Et c'est très étonnant en tant que Corse d'être confronté donc à des questions qui peuvent nous paraître étranges, hein, parce que les gens s'interrogent beaucoup sur la Corse, n'y comprennent pas grand-chose en vérité. Mais c'est toujours intéressant de voir l'image qu'on a de nous à l'extérieur. Et c'est une image un peu dégradée et un peu simplifiée quelquefois. Après, ce qui est étonnant, c'est que bien que faisant partie des écrivains qui écrivent en français, j'ai une véritable différence dans ma grammaire. Ça m'a été révélé par des journalistes littéraires qui m'ont dit qu'en fait, ce que j'écrivais, ce n'était pas vraiment du français. On ne peut pas parler de français régional, mais qui avait des structures très particulières. Et ça, c'est une vraie découverte pour moi.
Alors, ces rencontres, mais sur le livre lui-même, quelles ont été les questions que l'on vous a posées ? Parce que votre livre, quand même, se passe dans des telles et telles années. Il y a Louis, il y a ce vétéran. Les questions qu'ils vous ont posées elles-mêmes sur votre livre ?
Alors, les questions, les plus courantes, c'était comment... Il y a eu des questions sur la composition des livres, à laquelle j'ai beaucoup de facilité à répondre. Puisqu'on m'a souvent posé des questions, mais comment écrivez-vous ? Puisqu'il y a quand même des journalistes, et en particulier une journaliste qui s'appelle Marie-Étienne, qui est une grande journaliste littéraire de En attendant d'ado, qui remplace la quinzaine littéraire, qui était très étonnée par mon écriture. Et je me suis un petit peu justifié sur ce type d'écriture. Et comme je dis, j'ai une écriture très particulière, en tout cas dans la manière d'approcher les choses, puisque je ne travaille pratiquement pas. Je prends l'exemple, je prends souvent un exemple musical, j'écris un peu comme on improvise en blues ou comme un gitan peut jouer du flamenco avec des bases, mais en toute liberté. Et ça donne quand même quelque chose de très étrange, enfin, au vu des autres. Moi, je croyais que j'écrivais normalement, et en vérité, non.
On va attaquer vraiment votre livre en deuxième partie, voilà.
La mia ricca di statura bianca e rossa di colori, a guardati par un fiore a palla in canto gore. Bello con te,
Alors, comme ça, un matin du mois de septembre, on vient te chercher. La nuit venait de s'effacer depuis quelques heures. La ville était enfin libérée. Voguait partout un air de fête et d'odeur suave de cadavres. Bon, ça met une ambiance, là, tout de suite.
Ça met l'ambiance, oui, effectivement.
Comment vous avez construit ce livre? Est-ce que vous êtes parti, vous avez commencé à l'écrire à partir d'un personnage, de l'histoire avec un grand H? Comment ça se construit?
Alors, moi, je construis les livres toujours par rapport à un territoire. C'est toujours le territoire qui structure le livre. C'est-à-dire que c'est une ville, c'est un lieu. Ensuite, sur ce territoire vont se poser des personnages qui ont quand même une certaine liberté. C'est-à-dire que quand je commence à écrire, il y a des personnages que je pourrais considérer comme secondaires, comme Marie Fabiani, par exemple, dans ce livre, et qui ont une place quand même assez importante au fur et à mesure. Ils ont une certaine amplitude. Donc, le lieu, les personnages, et ensuite, il y a ce que j'appelle la mise en abîme, c'est-à-dire que je me laisse aller à une espèce d'inconscience où il y a des éléments de mémoire qui se croisent avec des éléments de culture. Alors, les éléments de culture, c'est ce que je ne sais pas. Par exemple, j'ai besoin de savoir une date particulière, celle du débarquement de Provence, bon, que je connais par cœur en vérité, mais ça, c'est des éléments de culture. Et le tout donne une espèce de poésie, mais disons que j'écris souvent dans un état de demi-conscience, enfin, si on peut s'exprimer ainsi, quoi. Je ne travaille pas véritablement la structure de mon livre. Je reprends encore le terme d'improvisation. Ça ne veut pas dire que mes textes ne sont pas travaillés.
Non, mais c'est même sûr. Non, mais le problème aussi, c'est celui de la mémoire. Comment vous interprétez cette mémoire? Il y a une date, il y a des événements. Vous trichez avec l'histoire ou vous rentrez dans l'histoire?
Ah non, je triche avec l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est d'abord ce qu'il en reste 60 ou 70 ans après, c'est-à-dire des morceaux d'archéologie, hein, des diamants qui émanent ou des morceaux de charbon qui sortent de la terre. Et de ces particules, j'en fais un livre. C'est un peu comme la mémoire humaine. Il y a des éléments qui sont très vieux dans la culture familiale ou dans la culture corse, dans la culture commune, et qui sont devenus énormes. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est de savoir pourquoi on s'intéresse à cette période-là et pourquoi on va choisir tel personnage plus qu'un autre et pourquoi on syncrétise sur ce moment-là. Je ne fais aucune recherche historique pour mes romans, absolument.
Ce personnage, vous le connaissez bien, celui de Louis, parce que c'est un proche, on peut le dire,
maintenant,
de votre famille, ou
du moins,
il y a eu une certaine injustice, d'où le titre, Épuration. C'est un petit peu ça qui vous a un petit peu lancé dans le livre, qui vous a jeté dans ce livre.
C'est un peu, oui, on peut dire ça. C'est ce qui a été le moteur. Ce qui est aussi le moteur, c'est de voir que il y a une période de fête qui est la libération donc, de la Corse, de la Provence et de la France ensuite, et que cette période de fête, elle est un peu traversée par des crimes pas tellement justifiés. Et moi, c'est l'injustification qui m'intéressait dans ce personnage. C'est-à-dire que, plutôt que d'avoir pris trois personnages qui auraient été des anciens de la Waffen-SS ou de la milice française, j'ai pris trois personnages qui n'ont pas grand-chose à se reprocher, et qui se retrouvent finalement assassinés par des gens qui récupèrent un peu l'histoire à la fin, puisque la ville est libérée, comme je l'ai dit. Et c'est ces périodes-là d'intermédiaires qui m'intéressent. Et bon, je le dis rarement, mais je le dis quand même quelquefois, en sous-jacent de ce livre, même si c'est pratiquement jamais dit, il y a quand même ce qu'on appelait la guerre intestine des années 90 dans le mouvement nationaliste, qui m'a évidemment énormément marqué.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away. Watching the tide roll in, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, looked like nothing. Watching the tide roll away, sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me.
Ce que j'aime dans votre livre, Gilles Zerlin, c'est que les chapitres nous étonnent les uns après les autres. C'est donc un suivi, ça c'est sûr, mais il y a des surprises. On le lit comme un jeu. Est-ce que je suis sur la bonne piste ?
Oui. Chaque chapitre est presque indépendant. Je disais, un jour, je vais essayer de le lire dans n'importe quel sens. Je pense que ça fonctionne à peu près. Je prenais l'exemple, vous savez, j'ai été très influencé, moi, par la musique, par le rock en particulier, et je prenais l'exemple d'un 33 tours. Dans un 33 tours, il y a une certaine unité, il y a quelquefois une unité véritable quand c'est des concept albums, mais il n'y a pas une unité obligatoire. Et en fait, On peut imaginer que j'ai additionné plusieurs 45 tours pour faire un 33 tours. Enfin, maintenant, on ne dit plus tout ça, mais je dis quand même...
Ça fait du bien.
Ça fait du bien de parler 33 tours et 45 tours. Et pour faire une œuvre de 45 minutes, quoi. Oui, effectivement, c'est un peu comme un jeu de cartes qu'on aurait mélangé et qui serait quand même posé sur la table. Ça ne veut pas dire que le jeu de cartes est détruit. Ça veut dire qu'il a un ordre particulier. C'est la première fois que je dis ça, d'ailleurs, parce que je me rends compte qu'en fait, entre peut-être tirer les cartes au hasard du tarot et écrire ce livre de cette manière-là, il y a peut-être un lien, effectivement.
Il y a donc un dosage entre l'histoire H avec un grand H moyen.
Elle est très petite, le grand H est très petit.
Oui, oui, et il y a le romanesque. Parce que, quand même, le romanesque tient bon la barre dans ce livre.
Et oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes, c'est l'âme humaine, hein. Tant dans l'amour que dans la haine, tant dans la fraternité que dans la trahison. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de romanesque, voire de lyrisme, m'ont dit certains. Moi, ce qui me plaît, c'est raconter des histoires. Je suis un méditerranéen. Il faut que ça fuse, il faut qu'il y ait une part de conte, une part de cauchemar, un peu de rêve, mais surtout de cauchemar. Et évidemment que je suis un conteur, je suis un poète, avant d'être un écrivain. Écrivain au sens classique du terme, quoi.
Il y a une chaleur qui se dégage dans votre livre, parce que vous choisissez des personnes ordinaires, on va dire entre guillemets.
Il n'y a que des personnes ordinaires.
C'est-à-dire, vous ne prenez pas des héros, dans le sens noble du terme aussi. Bon, c'est un petit peu des quidam à qui il arrive des aventures, c'est ça ?
C'est ça, ce sont des prolétaires, hein. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui travaillent, sont tous des gens, banals. Il n'y a pas de héros véritable, si ce n'est peut-être la tenancière du bordel, Marie-Fabiane, qui, sans être une héroïne, a une dimension un peu de déesse, malgré tout, puisqu'elle reste vivante et puis elle entretient le culte de la mémoire, comme une vestale. Et le fait de choisir... Mes personnages sont toujours des gens du peuple, et mes personnages sont toujours des gens du peuple corse. Et quand je dis peuple corse, je sais de quoi je parle. Je veux dire par là que notre peuple, bon, maintenant c'est un mot cochon, je sais, il faut plus dire peuple, il faut dire communauté. Enfin, moi je fais pas partie d'une communauté, hein. Je fais partie d'un peuple. Et notre peuple, donc, a souvent été utilisé dans l'armée, dans le fonctionnariat. C'est un peu cet hommage, c'est à ces gens-là que je veux rendre hommage dans chacun de mes livres d'ailleurs. C'est ces gens-là qui sont en avant.
Je rappelle le titre de votre livre « Épuration illité » chez Maurice Nadeau. Par la suite, nous allons vous voir et puis vous écouter pour la suite des romans que vous avez écrits, notamment « Chute ». Voilà.
Rencontré par hasard ici, ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes, sans se connaître on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en
mon pauvre amour. Les belles années passent vite.
Maintenant tu vas partir, tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, disant mon nom, une affiche te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, il lui dira que je m'affiche.
Et maintenant, Gilles, si on parlait d'un autre livre, Chute ou les mésaventures de Monsieur Durand. Alors ce Monsieur Durand, là aussi, c'est quelqu'un d'ordinaire, hein, sans beaucoup de charisme, pas beau, pas laid, dites-moi. Bon, il est peut-être sympathique, mais il lui arrive plein de choses, alors évidemment.
Oui, Monsieur Durand, c'est une référence à Durand, c'est une référence à Dante, hein. C'était un hommage un peu modeste. Oui, Monsieur Durand, c'est un livre il y a quelques années maintenant, et dont je me souviens de la genèse. En fait, c'est quand il y a une dizaine d'années, quand des gens se sont suicidés chez France Télécom. Je trouvais ça plus que terrifiant. C'est-à-dire que dans notre imaginaire à nous, on peut mourir assassiné, mourir à la guerre, mais pas mourir au travail de cette manière-là. Et cette histoire de M. Durand, c'est un peu l'histoire de ce travail qui broie les gens avec des outils dérisoires, quoi. Ça, et oui, Monsieur Durand, c'est quelqu'un qui subit l'enfermement d'abord professionnel et puis qui ensuite se referme sur lui-même. Et surtout, ce livre, c'est un hommage à tous les auteurs de Fleuve Noir, pour qui j'ai un immense respect, puisque c'était des travailleurs de la plume, de vrais travailleurs, puis qui sortaient un livre tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. Et surtout, c'est un hommage à un de mes maîtres, qui est Gégé Arnaud, qui a disparu il y a 2 ans, aujourd'hui pratiquement. Et Gégé Arnaud qui avait dit de ce livre « Je suis très impressionné ». Voilà. Donc c'est un hommage à ces gens-là, qui étaient des travailleurs de la plume, qui n'existent pratiquement plus, puisque maintenant tout est remplacé par les smartphones ou les mangas, sur lesquels je ne préfère pas prononcer.
On ne va peut-être pas s'attarder là-dessus. Quand je vous ai rencontré une fois aussi, vous m'avez dit, si vous voulez commencer à lire ou à me connaître un peu davantage dans mes livres, vous n'avez qu'à lire Chute. Alors
oui,
ça, pourquoi alors?
Parce que je crois que c'est peut-être mon livre le plus personnel, puisque bon, c'est un livre qui se passe dans une époque qui n'est pas vraiment définie, mais qui pourrait être les années 2010-2015. Et il y a beaucoup de moi dans Chute, oui. Y compris dans l'enfermement, dans la difficulté à vivre dans cette société où, phrase banale mais véritable, l'homme est un loup pour l'homme. Et ce personnage un peu paranoïaque et sombre, par certains côtés, me ressemble, oui.
Oui, vraiment, totalement ou
partiellement? Ah non, je ne peux pas dévoiler la fin.
Non.
Parce que
s'il
me ressemblait totalement, je ne serais pas là.
Mais le titre est bizarre, Chute.
Chute, c'est pas bizarre du tout. Chute, c'est un triple jeu de mots. C'est d'abord un hommage à un titre de Gégé Arnaud qui s'appelle Chute. C'est un jeu de mots avec Chute, taisez-vous. Et c'est un hommage aussi à Albert Camus.
Ah,
la
oui.
Chute.
Ah,
donc c'est un triple
évidemment.
Hommage. Voilà, évidemment. C'est un triple hommage. C'est un livre que je considère absolument camusien. Il y a même quelqu'un qui a dit « C'est l'étranger de l'an 2000 ». Et ceux qui le relisent, je crois qu'il y a un peu de vrai dans c'est pas l'absurdité, c'est la société qui écrase les hommes. Je trouve que l'étranger n'est pas un livre absurde, loin de là. C'est un livre de l'écrasement humain. Et oui, c'est un triple hommage, ce titre.
Et si vous étiez un écrivain engagé, c'est-à-dire politique, et pas romanesque, ou vous servez du romanesque pour... c'est pas impossible, cette piste-là, du politique.
Ben, moi, je crois que je suis un écrivain éminemment politique, chose que rares sont les gens qui le repèrent, mais mes livres sont fondamentalement subversifs. À savoir que s'il y a bien une chose que je ne supporte pas dans ce monde-là, c'est que peut-être que ce qu'on appelle la société moderne, la société industrielle, enfin, qui n'est plus industrielle, mais qui est la suite de la société industrielle, a rendu les hommes dans une société totalement... Oui, a rendu les hommes totalement aliénés. Et cette aliénation est insupportable. A rendu les hommes aliénés, a détruit les peuples historiques, a détruit la culture populaire. C'est surtout cette perte de culture populaire qui est terrifiante pour moi. C'est-à-dire que tout est remplacé par plus grand-chose, si ce n'est le consumérisme, quoi.
See you.
Et puis il y a ce chapitre, le dernier, dans Toujours Chute, Il Paradiso, avec un petit extrait tout de même, c'est un plaisir de vous lire. Il marchait avec une légèreté inhabituelle, pieds nus sur l'herbe drue taillée courte par les bouches des troupeaux d'anteliers. Des bosselures traversées de minuscules veines d'eau formaient un labyrinthe aquatique aux gargouillis de dentelle. Un ver généreux diffusait sa propre lumière. Alors, on est poète, Gilles Zerlini?
On est poète, mais on est surtout observateur. C'est un endroit qui existe, qui est en train d'être massacré par le tourisme, qui s'appelle le plateau du Couchon, qui sont les paysages de mon enfance, et que j'ai de plus en plus de mal à aller voir, parce que quand je vois les hordes de gens qui sont garés avec des habits fluorescents et qui traversent ce que j'appelle les pochines, et quand je vois que les troupeaux reculent et qu'il n'y a pratiquement plus de bergers, si ce n'est mon ami Antoine de Foat, j'ai mal quand je monte là-haut. C'est la poésie d'une douleur, d'un monde qui s'étiole, qui disparaît, et d'un monde qui était à nous et qui devient un immense foutoir, un immense supermarché.
En fin de compte, vous êtes sur les pas d'Éric Deluca qui écrit « J'écris sur la matière qui m'a écrit ». Donc, nous touchons du doigt. Là.
Oui, je pourrais dire « J'écris sur la mémoire qui m'anime ». Ce sont mes ancêtres qui me soufflent à l'oreille tout ce que j'ai à écrire, avec la modernité évidemment, mais oui, je suis sur ces pas-là, oui. Je ne suis pas d'une génération spontanée, je porte en moi des milliers de légendes.
Mais ce n'est pas un exercice facile, que d'écrire sur ses propres, les personnes qui vous approchent, qui sont proches, votre famille, c'est un exercice... qui doit faire transpirer quand même, c'est de les émotions, ça.
Oui, mais c'est comme la musique, si c'est pour pas transpirer en écriture, en poésie, il vaut mieux aller faire un footing, hein. Là on transpire, mais on sait pourquoi. Non, je crois que ce qui n'est pas subversif et ce qui n'est pas douloureux, pas dans la création, parce que je ne souffre absolument pas pour écrire, moi, mais il faut mettre les tripes sur la table, autrement je vais pas prendre d'autres auteurs en parallèle, mais si c'est pour écrire de la bluette, il vaut mieux faire une omelette au broch, ouais. C'est plus facile.
Je suis d'accord.
Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, pas d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour. Comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rose et pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême effort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Tous ceux qui m'aimaient tant, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
Gilles, c'est vous qui avez choisi cette chanson, c'est une époque.
Ah, Fréhel, c'est quelque chose. Alors, c'est une époque, c'est les chansons que j'entendais quand j'étais tout petit, qui étaient sur le 78 tours de ma voisine de palier, qui écoutait les chansons de sa jeunesse. Quoi. Fréhel, Damia, Bert Silva, Traîner jeune, c'est une merveille. Mm. Tout ça, c'est aussi mon imaginaire. Je dis souvent que mon imaginaire, c'est... C'est Bert Silva qui rencontre Jimi Hendrix avec un peu de magma au milieu, quoi.
Mais à quel moment vous vivez en 2021, c'est-à-dire
Ben, je vis en 2021 quand je traverse le cauchemar de la quatre voies, quand je vais prendre l'aéroport à Paris et que j'ai l'impression d'attaquer la Banque de France parce qu'on me demande les papiers tous les 3 mètres. Ça, c'est 2021. Après, quand je suis à Bastia dans les rues. Je ne vis pas en 2021, hein. Je crois que... C'est vrai, à quelle époque est-ce que je vis en 2021? C'est une vraie question, mais je préfère ne pas vivre en 2021, quoi. Oui, il y a des choses que j'adore dans la société actuelle. Hein. La possibilité d'avoir des informations sur le net, par exemple, qui est démesurée, est une chose fabuleuse pour les gens de culture. Ça, c'est 2021 que j'aime.
Oui, moi-même, je me suis laissé prendre à ce jeu alors que j'étais assez hostile.
Bon. C'est extraordinaire.
Mais dans Bastia, par exemple, quel est l'endroit que vous préférez le plus? Allez, la place du marché, le vieux port. c'est une question.
Non, l'endroit que je préfère le plus, c'est les terrasses de la terrasse de mon bar à la place Saint-Nicolas.
Ah oui. Les palmiers?
Eh oui, les palmiers obligatoires.
J'ai deviné, je ne sais pas pourquoi. Non, je le savais.
Les palmiers obligatoires. C'est, oui. Autrement, j'aime beaucoup Bastia parce que d'abord, ça n'est pas ma ville, bien que j'y vive depuis pratiquement une trentaine d'années. Ça n'est pas ma ville, elle garde toujours cette étrangeté. Et c'est une ville extrêmement riche, très maltraitée au niveau du patrimoine. Je trouve qu'il y a des dégâts phénoménaux. Et c'est une ville extraordinaire parce qu'on peut y marcher pendant des heures et surtout, on peut prendre les sentiers qui montent sur les hauteurs. Et ça aussi, je trouve que c'est très mal mis en valeur, cette possibilité d'aller de monter à Montserrat ou des endroits comme ça qui sont magiques.
Bon, ça n'a pas du tout de rapport avec la parution, par exemple, d'un de vos livres, Sainte-Julie de Corse, parce que... C'est bizarre quand on lit Épuration, quand on lit Chute et qu'on remonte vers Sainte-Julie, ben on se dit mais pourquoi Sainte-Julie?
Alors pourquoi Sainte-Julie, ouais. Je vous avouerai que ça a été une question, une vraie question, mais il y a eu une période de ma vie à 4-5 ans où j'ai décidé de réécrire certains martyrs chrétiens. J'ai commencé par Sainte-Julie qui est une des patronnes de la Corse. Et j'ai surtout été captivé par cette découverte que j'ai faite du Sainte-Julie de Corse de Jérôme Bosch. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que j'écrive sur Sainte-Julie. Donc j'ai réécrit Sainte-Julie, j'ai réécrit Sainte-Barbe, Sainte-Dévote et Saint-Sébastien. Je me suis arrêté là. Ça ne veut pas dire que je sois catholique pratiquant, pas du tout, mais la mythologie... Excusez-moi du terme catholique, est absolument une source inépuisable. Et, l'esthétique catholique est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, les symboles qui sont
les symboles dégagés. Catholiques sont extraordinaires, c'est inépuisable. Parce qu'ils ont récupéré à peu près toute la culture gréco-romaine, une partie de la culture juive, et c'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire.
Vous aimez alors, quelque part, la mise en scène? parce que l'Église catholique, entre guillemets, je trouve...
Ah oui, le baroque, forte. L'Église catholique, c'est fabuleux.
Oui, 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 oui.
La mise en scène, quelle qu'elle soit, oui. Y compris des fois dans la pureté, dans une oui. Église romane où il n'y a pratiquement pas de mise en scène, ne serait-ce que la pureté de et la pierre suffit à la mise en scène. Ah oui, j'aime bien les endroits comme ça, oui.
Alors ça, vous m'aidez, vous avez trouvé l'enchaînement. Je ne sais pas ce que c'est que la mémoire des pierres, a priori. Elles n'en ont pas, pourtant chacune d'elles a une histoire propre, une forme et une densité particulière. Nous y voilà, la mémoire, là aussi,
toujours, oui, toujours la mémoire. Cette obsession de la mémoire, oui.
Oui, oui, oui.
Je m'en rends compte au fur et à mesure des entrevues. C'est vrai que la mémoire, je suis pétri de mémoire, et comme je le dis souvent, le temps ne passe pas. Le temps ne passe pas, un peu comme... la couleur de nos yeux, hein. On est né à 50 ans ou 40 ans ou 20 ans et on a toujours gardé la même couleur d'yeux. Et en fait, le temps, c'est pareil. C'est une hérésie de penser que le temps s'écoule. Il n'y a que les fleuves qui s'écoulent. Le temps ne s'écoule pas.
Canta piano in cima la l'altra ranca ol mosca de San Damiano sopra lì sci lo cantone un lontano e Luigino da veigro già stazzò
un seul livre que je n'ai pas lu de vous, mais vous m'avez rassuré tout de suite, il est introuvable. C'est mauvaise nouvelle.
Il en reste un peu sur les sites de vente en ligne, d'occasion, et peut-être dans certaines librairies en Corse. Mais il est difficile à trouver, effectivement. Mauvaise nouvelle, c'est le premier livre. C'est celui, Le Brut de décoffrage. C'est une suite de 12 ou 13 nouvelles. que certains apprécient énormément. Bon, c'est un livre que j'ai un peu oublié. C'est le livre de la naissance, hein, où on trouve beaucoup de traits qu'on retrouve ensuite dans les romans.
Et alors, comment on fait pour écrire le premier livre ? Ça part comment ?
En fait, ça part d'une manifestation qui avait lieu à Porto Vecchio en 2009 ou 2010, où on me demande un texte. J'écris un texte qui s'appelle « Dégueuler ». Et ce texte-là est lu par mon ami Pierre-Laurent Santel et a un effet énorme. Et là où c'est intéressant, c'est que ce texte donc, fait partie de trois poèmes, « Dégueuler »,« Vendre » et « Se taire ». Et on va les rééditer bientôt, en français et en corse, dans une petite plaquette.
Ah, c'est une
Parce
bonne,
que c'est hein. des textes qui tournent, la raison pour laquelle, c'est que c'est des textes qui tournent depuis 10 ans sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les 2-3 mois, il y a quelqu'un qui envoie « Dégueuler » sur... un réseau social dont la phrase est devenue presque célèbre en Corse, qui est « Arrêtez de faire semblant, puisqu'en fait, tout est à vendre ».
Oui, il n'y a même plus de commentaires.
ça résume la Corse.
Oui, oui.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
En fin de compte, on a commencé tout à l'envers. Hein. On a commencé par le dernier livre, « Épuration », après on a pris « Chute ». Après, on a pris Sainte-Julie. Mauvaise nouvelle, c'est le premier. Et alors, les projets
Alors, les projets, donc, il y a la réédition des trois poèmes de Mauvaise nouvelle, que je ne voulais pas éditer, en plus, à l'époque. Je trouvais que c'était dérisoire. Les projets, c'est plus que des projets. C'est qu'il y a un livre qui est pratiquement terminé, qui s'appelle « Lettres à mes fantômes », qui se passe en Algérie en 55-56, là où, au moment où la guerre d'Algérie commence à basculer véritablement dans une véritable guerre, où on ne peut plus parler maintien de l'ordre. C'est un roman, hein, où il y a très peu d'éléments historiques. Donc celui-là est presque terminé. Il y en a un qui sera terminé peut-être avant la fin de l'année, qui s'appelle « Lettre à Antoine Michel ». C'est un titre provisoire, hein. J'aime bien écrire « Lettre », qui est l'histoire d'un Corse déporté au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, et qui ne reviendra pas. Alors c'est des livres où je m'étais promis de ne plus écrire sur la Corse, et plus je me promets de ne plus écrire sur la Corse, et plus j'écris sur la Corse. C'est-à-dire où les personnages sont corses, où je parle du territoire en permanence, quoi. C'est comme ça.
Mais vous vivez avec la Corse en vous-même.
Je vis avec la Corse disparue en moi-même.
Oui, oui. Mais on sent que vous... C'est vrai que vous vivez avec la Corse.
Oui,
vous...
oui, évidemment.
Même si vous pensez un peu à Toulon, quand même. Hein.
À Toulon, c'est très, très, très important.
C'est votre enfance.
Sauf que Toulon, c'est un morceau de la Corse. Hein. Toulon, le Toulon de mon enfance, c'est... quitte à en vexer quelques-uns, bien plus corse que le Bastia d'aujourd'hui, puisqu'on entend parler corse dans la rue, on entend parler corse de fenêtre en fenêtre, on a une vision de l'extérieur très forte, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas toulonnais de la basse ville n'est pas toulonnais. Non, non, on a reproduit exactement tous les critères corse sur ce petit territoire. Hein. Toulon, c'est la ville corse, puisque... qui avait en vexé quelques-uns. Bastia et Ajaccio ne sont pas à proprement parler des villes. Je sais que j'en vexe, mais c'est comme ça.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur des satins. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons, et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver. Je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr. Je me décide, je veux faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et visiter ton paradis. Et tu n'es pas là. Tu es pas là. Tu es pas là.
sais pas comment pour que je me rappelle. Et si je rêve, tant pis. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, un coup d'amour.
Voilà, Gilles, l'émission se termine. Mm-hmm. Est-ce que, comme ça, vous auriez une phrase ou deux d'un de vos livres en tête, mais c'est peut-être une question piège, pas du tout. Donc...
Ah oui, c'est une question piège, c'est impossible.
C'est impossible.
C'est impossible, il y a même des gens qui se moquent de moi, des fois, dans les soirées, ils disent « Mais tu l'as écrit, le livre ?»
Donc, c'est une question qui ne peut pas aboutir.
Ah non, c'est... Même en me creuse... Enfin, il faudrait vraiment que je me creuse la tête.
Ah oui. Donc, alors... On peut peut-être terminer en disant quel est votre auteur préféré.
Ah, mon auteur préféré, c'est Drieu La Rochelle, quitte à en faire trembler quelques-uns, quoi. La rencontre avec Drieu, c'est une rencontre très récente, hein. C'est une rencontre il y a moins de 2 ans, ça a été un choc absolu. Bon, il y a Giono aussi.
Flaubert. Hein.
Flaubert, évidemment. Mais
l'éducation sentimentale.
Flaubert, c'est le patron, Flaubert.
Oui,
et Balzac, c'est les patrons.
Ouais,
ça, on ne discute pas.
C'est vrai.
Ça, c'est eux qui donnent l'alpha et l'oméga. Mais dans les petits jeunes, on va dire,
oui.
Giono qui a changé ma vie, hein, parce que la lecture de Giono a changé ma vie, et Drieu et Simenon, qui est quand même... Qui sait de quoi il parle, Simenon, en tant que... Il sait ce que sont l'âme humaine. Il sait ce qu'est l'âme humaine.
Alors, on se dit à bientôt. Surtout, bonne lecture. Et lisez beaucoup les livres de Gilles Zerlini.
Merci.
Senti violo che cante l'uccelli. Guarda violo e violi così belli. Si tu violo volessi gumelli. Stai qui fiolo e vade mulagnelli. Senti violello a voce di mamma, di quello fanello a babbo un po' chiamà. Ume vascianello per te voglio rimà. Senti violello l'affanno di mamma. Senti violo che canta la vadina. Mezza di scui va verso marina, così fiolo scorre la tua mattina, ora di a fiolo a sera si avvicina. Senti violello a voce di mamma, di guerra l'orfanello, a babbo un po' chiamà, come va scianello per te voglio rimà. Senti violello, l'affanno di mamma. Senti violo, chi sospira l'amata, una zitella di te si è innamorata. Spunta la luna, passate la giornata, porta violo a dolce serenata. Senti violello, a voce di mamma. A babbo un po' chiamà, come va Gianello, per te voglio rimà. Senti violello, l'affanno di mamma. Senti violo, ti canto malacello, per te fiolo, chiamato all'umacello. Vi malanesco, mi senza cervello. Stai qui fiolo e varde mulagnelli. Ma senti violello a voce di mamma, di guerra l'orfanello a babbo un po' chiamà. Come va Gianello, per te voglio rimà. Senti violello l'affanno di mamma.